Étienne Dao, A Secret Book de Sylvie Coma est paru le 28 octobre dernier aux éditions de La Martinière. Ce beau livre fourmillant d'anecdotes et de photos revient sur la vie et la carrière de notre invité, figure mythique de la pop française à la sensibilité pudique et à l'élégance solaire, bien qu'il s'y connaisse en ténèbres. Également grand ambassadeur des marinières, le chanteur et compositeur vient de signer une collection capsule pour la marque Saint James, qu'il faut paraît-il prononcer Saint-James, mais l'exactitude est une chose épineuse. Ce que je peux vous dire sans risque, en revanche, c'est qu'un prochain album devrait sortir au printemps 2023 sur le label Barclay et sous le titre « Tirer la nuit sur les étoiles ».
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Étienne Dao.
Bonjour, j'aime beaucoup le générique.
Ah bah c'est Flavien Berger qui l'a composé.
Ah j'étais sûr que c'était lui.
Avec lequel vous avez collaboré.
Oui, ouais.
Dont on va entendre une chanson tout à l'heure en plus, ça tombe bien. Bravo. Êtes-vous content, ça ne m'empêchera pas de vous poser cette première terrible question, êtes-vous content d'avoir été mis au monde?
Ah oui. Ah oui, bien sûr. ça m'a permis d'avoir vraiment un parcours d'exception, quoi, de plaisir, de partage avec les autres, d'être créatif. Oui, mille fois oui, quoi.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même?
Bien.
Vous êtes un bon compagnon pour vous?
Oui, je suis un bon ami pour moi.
Ça l'a toujours été?
Ça ne l'a pas toujours été. Mais ça l'est de plus en plus.
Ça, c'est toujours encourageant de savoir que... Étienne Dao, ce qui vous donne envie de vous lever, c'est d'être en vie, d'aimer votre vie et d'avoir cette passion pour la musique. Vous avez toujours aimé votre vie, vous avez conquis cet état de fait?
J'ai toujours aimé ma vie, mais c'est vrai que je fais de la musique depuis très longtemps, depuis très jeune. J'ai dû commencer à 20 ans. Et c'est devenu vraiment un oxygène pour moi. Et le fait que ça se prolonge, que ce soit encore le cas maintenant, 40 ans après, c'est assez exceptionnel. Et... enfin, j'ai de quoi me réjouir au quotidien, quoi, vraiment. C'est une passion. Alors,
Justement, Sylvie Coma dit dans ce magnifique livre que vous êtes possédé quand il s'agit de musique. Et on apprend que la musique a eu une importance fondamentale pour vous depuis l'enfance. Ça a commencé à Cap Falcon, station balnéaire à une vingtaine de kilomètres d'Oran, où votre grand-mère et vos tantes tenaient un café dans lequel il y avait un jukebox, votre première histoire d'amour.
Ah oui, c'est vraiment... J'ai des souvenirs extrêmement précis de cet endroit. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui est allé à Cap Falcon il y a quelques années, et qui recherchait justement ces endroits pour faire des photos. Et j'ai pu le diriger dans l'endroit, mais vraiment comme si j'avais quitté l'endroit la veille. J'étais complètement marqué par cet endroit.
Et vous saviez...
un endroit, en même temps, avec des... avec vraiment des sensations très contraires, en fait, entre la dangerosité de la guerre, et puis, en même temps, un petit village de plage solaire, avec une famille aimante, et... Tout cela fait un contraste assez intéressant.
Il paraît qu'on vous surnommait Only You.
Oui, parce que c'était un tube phénoménal à l'époque,
ouais,
un
tube
des Platters, qui passait en boucle, et donc je crois que je le chantais à tue-tête en phonétique.
À partir de l'âge de 8 ans, je crois, vous habitez en France, à Reims puis à Rennes.
Oui, c'est ça.
Et vous achetez deux disques, The Velvet Underground et Nico, avec la banane, la fameuse banane d'Andy Warhol sur la pochette, et le premier album des Pink Floyd.
Mais c'est plus tard, hein, je devais avoir 13 ou 14 ans.
D'accord.
J'habitais déjà à Rennes, en tout petit, non, à 8 ans, non. Mais plus tard, oui, je me souviens de cet album de Pink Floyd. Je suis entré dans une boutique, parce que j'adorais le jeudi, à l'époque c'était le jeudi, aller chez les disquaires et regarder les pochettes, regarder les disques. Ça a toujours été un objet magique pour moi. Et le vendeur a passé cet album de Pink Floyd et j'ai su que c'était pour moi immédiatement. C'est fou, cette musique s'adressait à moi. C'était un peu comme des comptines macabres, hein, la musique de Syd Barrett. Il y a un côté comme ça, très enfantin, très comptine et en même temps macabre à l'anglaise. Et je lui ai demandé de me le mettre de côté, enfin, de le garder. Et donc je venais donner des sous toutes les semaines, un tout petit peu. Puis un jour, j'ai ramené le trophée à la maison.
Ah oui, un trésor.
Oui, c'était mon premier album, parce qu'avant, il y avait les 45 tours de Yéyé, tout ça, de pop anglaise, ou de 45 tours que je récupérais justement du jukebox de mes tantes. Mais là, c'est le premier album que j'ai vraiment acheté avec des sous. Je faisais du babysitting, tout ça, mais j'ai ramené ce disque, et vraiment, je l'ai toujours.
Il y a quelque chose d'assez fabuleux, Étienne Dao, quand on regarde votre parcours et quand on lit ce livre « Secret Book » de Sylvie Coma sur toute votre carrière et votre vie, c'est qu'en fait, tous les gens que vous admiriez au début, finalement, soit vous les avez rencontrés, vous avez même collaboré avec eux, ou vous êtes allé sur leurs traces. Syd Barrett, vous êtes allé dans sa chambre, celle qui figure sur un album, et Nico, pour laquelle vous aviez fait une fugue à l'âge de 13 ans pour aller la voir au Palace, vous l'avez rencontré aussi.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que... Alors après, est-ce qu'on provoque les choses lorsque les choses sont écrites? C'est vraiment une grande question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais la plupart des gens qui m'ont construit, je les ai rencontrés. Vraiment, il y a eu... le destin a écrit quelque chose comme ça qui a fait que la rencontre s'est faite. Et que soit nous avons collaboré artistiquement, soit il y a eu des échanges, des moments.
On va en parler du destin et des rencontres. Et dans un instant, il sera, entre autres, question d'intensité, de consommation, d'Elie et Jacquenot, de Françoise Hardy et Jacques Dutronc, de Jane Birkin et Serge Gainsbourg, du groupe Unloved, de Rilke, de Saint-Exupéry et de Jean Genet. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Eh bien, nous voici dans le bureau du directeur de l'usine d'ici les Moulineaux.
Le problème des ordures ménagères est un problème qui s'est posé dès la plus haute antiquité et on s'est trouvé en présence de deux modes d'évacuation des ordures ménagères, l'incinération ou la mise en décharge. À Paris même, la butte au Papelard, à l'extrémité de l'île Saint-Louis, la butte au Copeau, du Jardin des Plantes, et même une partie de Montparnasse est constituée par des dépôts d'ordures ménagères.
1950 sur la RTF, émission consacrée à l'évacuation des ordures, pour introduire ce que vous aimeriez changer dans votre environnement, Étienne Dao. Je vous cite, nous consommons et jetons trop, nous devrions être plus frugaux.
Ah oui, c'est vrai.
Vous avez un mode de vie frugal, j'ai l'impression.
J'essaie, oui. Enfin, j'essaie. Voilà, c'est une contribution individuelle. Après, individuelle, plus individuel, ça fait des masses. Mais oui, bien sûr, oui. Mais par aussi par goût. Hein. J'achète pas beaucoup, je consomme pas beaucoup.
Dans une interview pour GQ, justement, vous disiez que vous étiez assez content dans cette période, c'était en 2019, mais dans cette période très sombre, de voir des jeunes de 14-15 ans devenir à nouveau anticonsuméristes. Vous disiez, j'ai connu les manifs, les squats, les concerts associatifs, on s'achetait deux disques par an, on s'habillait dans les fripes.
Oui, surtout, on se passait les vêtements, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est troc.
En préparant l'émission et grâce à l'aide de l'alerte Arnaud Jamin, j'ai découvert que chaque année en France, un habitant produit 354 kilos d'ordures ménagères et qu'un Français dépense plus de 17 000 euros par an. C'est une moyenne évidemment parce que certains ne gagnent même pas cette somme. Mais quand on lit ces chiffres, on est presque pris de nausées.
Oui, c'est vrai. Surtout, d'après ce que j'ai lu ou ce que j'en sais, il y a beaucoup de gens qui achètent mais qui jettent. C'est ça qui est... Surtout, on est dans un moment où on doit vraiment prendre conscience de plein de choses. Enfin, le quotidien nous le rappelle à chaque instant, donc... Il faut changer de mode de fonctionner, ça c'est clair, c'est une urgence absolue.
Oh, j'aime tout, je veux goûter à vous. Oh, j'aime tout, je veux me donner à vous. Avant que je m'en aille, avant mes funérailles, de la vie faire ripaille, avant que je m'en aille.
Votre morceau des attractions désastres, Étienne Dao, pour introduire l'une de vos réponses à notre questionnaire, je vous cite... Pour moi, l'engagement est d'être intensément vivant à chaque instant, embrasser ce qui est neuf. Les autres engagements sont de l'ordre du domaine privé. Dans Ouverture, vous écrivez « Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous ». Vous le pensez ?
Oui, je le pense parce que ça m'est arrivé. La sensation d'avoir des rendez-vous avec des êtres qui traversent vos vies et qui la transforment profondément. Oui, bien sûr.
Vous dites aussi que vous pensez qu'on peut modifier le cours du destin. Je suis partie dans la vie avec des plombs aux pieds, je suis née en Algérie, il y avait la guerre, je suis rentrée en France, je n'ai pas vécu avec mes parents, j'ai décidé que je me ferais une belle vie. On peut décider de ça.
J'ai toujours eu la sensation que j'aurais une belle vie. Mais ça, c'est une intuition. Après, la chance, je pense qu'il faut savoir la reconnaître. Saisir les moments où on sent qu'il faut lui emboîter le pas, quoi. Et peut-être que j'ai cette intuition-là.
Dans le livre Étienne Dao Secret Book, Sylvie Coma écrit, elle vous fréquente depuis que vous êtes enfant, Étienne Dao, elle écrit déjà une remarque qu'elle se fait pendant que vous êtes enfant, rien ne filtre de sa vie antérieure, comme s'il n'en avait gardé aucun souvenir. C'est un personnage à éclipse, au passé évanoui, il vit le présent et puis voilà. Vous fermez la porte à la mémoire délibérément ou...
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été élevé dans une famille très secrète, en fait, qui ne parle pas de ses failles. C'est une famille très bruyante, qui parle beaucoup et très fort, mais qui ne dit pas l'essentiel. Et j'ai été élevé dans cette chose-là. Et en plus, lorsque je suis arrivé, quand mon père est parti, par exemple, ça a été vraiment le silence. On n'en a plus jamais reparlé, comme si c'était quelque chose qui était un fait. Et le reste a été pareil. C'est-à-dire que les injonctions de ma mère, par exemple, c'était, on ne parle pas d'avant. Donc, on a eu la sensation aussi, avec l'envie de s'intégrer, de se refaire une nouvelle vie, que ce passé n'existait plus du tout. Alors qu'en fait, il est toujours là. Enfin, il court dans vos veines. Mais juste, il ne fallait pas en parler. Et donc, j'ai eu la sensation qu'il fallait que je cache des choses pendant très longtemps. Mais c'était qu'une sensation. Je n'ai pas d'horrible secret. C'est juste... J'ai répondu à des injonctions familiales. Quand j'ai commencé, par exemple, évidemment, les journalistes me posaient des questions, je répondais à côté, ou alors les seules fois où j'ai évoqué des choses très personnelles, je me suis fait engueuler, mais vraiment, par ma mère, qui m'a dit, mais écoute, toi, t'as choisi d'être exposé, mais pas nous. Voilà, donc j'avais la sensation, en disant certaines choses, peut-être de blesser ma mère ou mes sœurs. Donc je me suis abstenu.
Vous parlez... En revanche, des choses graves avec légèreté. Vous parlez de l'infectieuse mélancolie dans votre chanson « Les torrents défendus ». Quelquefois, en interview, vous avez fait allusion à cet épisode où vous avez frôlé la mort avec une péritonite qui a mal tourné.
Oui.
Et puis dans le livre, on lit des choses à propos de Los Angeles dans les années 90. Château Marmont, vous avez hésité à enjamber une balustrade.
C'est vrai, mais c'est tellement pas moi. C'est tellement pas moi, c'est une période où vraiment mon corps a lâché, en fait. Pas ma tête, mais mon corps. Et évidemment, le corps a un effet sur l'esprit. Et c'était une décade de succès, d'excès en tout genre, de dormir 14 secondes par nuit. Et voilà, j'avais envie d'en profiter. Je trouvais que c'était, j'avais une belle vie marrante et j'avais jamais assez de temps pour tout faire. Et donc, voilà, j'ai été rattrapé, parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir une très bonne vitalité, une très bonne santé, et je pensais vraiment que je pouvais aller très très loin. Et donc, non, je m'en suis aperçu à ce moment-là.
Étienne Dao, vous semblez ne pas tenir en place, vous avez vécu à Lisbonne, Barcelone, Ibiza, Paris, New York, Londres. Mmh. Est-ce que ça vous arrive de ne rien faire ou de vous ennuyer?
Non, ça m'arrive jamais de ne rien faire. Par contre, j'ai beaucoup aimé la période du Covid. Cet arrêt forcé, d'abord je sortais de 2 ans de tournée, donc vraiment c'était un moment que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, de m'arrêter de courir. Et c'était un peu comme quand on est un ado, c'est-à-dire qu'en fait on prend un bouquin, puis tout d'un coup on laisse tomber le bouquin, on regarde le plafond, je veux dire, on a le temps de s'emmerder quoi. Et j'ai redécouvert ça et j'ai trouvé ça fantastique, parce que ça m'était pas arrivé depuis, depuis mes 14 ans. Enfin. Donc j'ai beaucoup aimé retrouver cette sensation de l'ennui. Voilà, ce qui m'est pas arrivé depuis l'adolescence.
Quand on lit des choses à votre sujet, il y a toujours cette notion de liberté, de mouvement qu'on retrouve partout. Vous avez dit dans une interview, Étienne Dao, être défini, que ce soit par la religion, la couleur de peau, la sexualité, me fait horreur. Est-ce que vous arrivez à vous surprendre? Vous vous connaissez par cœur?
J'ai passé beaucoup de temps à essayer de me comprendre.
J'ai failli
renoncer. Et si je me comprends,
oui.
Oui, je crois quand même. Je crois qu'il y a une certaine, au bout d'un certain temps, on se comprend. Parfois, on fait des choix incompréhensibles. Mais là, maintenant, à mon âge, je crois que j'ai fait la paix avec pas mal de choses. Donc, c'est vrai que, évidemment, prendre de l'âge a ses avantages, de trouver une cohérence avec soi-même et de plus, de devenir son meilleur ami, d'une certaine façon.
Et vous vous surprenez tout de même ou pas? Vous avez besoin de nouveautés, de ruptures?
Oui, j'ai besoin de nouveautés, sans arrêt.
Et vous y arrivez?
Oui, oui.
Waouh!
Déjà avec la musique, je suis un grand consommateur de musique, et vraiment j'ai des emballements, je tombe amoureux d'un bouquin, je tombe amoureux d'un film, d'un livre, enfin il y a toujours quelque chose qui va m'ouvrir une petite porte. Voilà. Et pour ça, je suis toujours plein de gratitude pour les artistes. Ouais.
L'amour, la chose dont on parle le plus dans vos chansons, Étienne Dao et les artistes, c'est parfait. Étienne Dao, je vous ai demandé quelles étaient les rencontres qui avaient changé votre rapport au monde. Vous avez cité trois couples mythiques de la chanson qui vous ont adopté dès vos débuts. Le premier, c'est Élie et Jacquenot, dont on entend le titre de 94, Je t'aime tant. Je crois que vous les avez découverts...
84 Ouais.
Bravo. Je corrige de suite. Vous les aviez découverts dans un roman photo, Punk Story, et vous aviez été fasciné par leur look.
Oui, par leur musique aussi. Il y avait une telle énergie dans cette musique, et alors qu'ils se sont toujours vraiment défendus d'être des punks, surtout Jacquenot qui avait horreur de ça. Mais il y a eu une rencontre vraiment très très puissante entre eux et moi, vraiment comme la découverte d'une famille, avec l'intuition justement que c'était des gens avec lesquels je pouvais... je pouvais être en osmose totale. J'ai organisé un concert avec Sylvie, d'ailleurs, avec Sylvie Coma.
En 77.
Que j'avais embarqué dans cette aventure.
Vous avez fait une association.
On a bouffé des patates pendant des années, parce qu'en fait, on a perdu beaucoup de sous. Mais ce soir-là, il devait rentrer à Paris après le concert. Il y a eu une tempête de neige. Et en fait, je n'avais pas les moyens de leur payer l'hôtel en plus. Et donc, on a passé toute la soirée chez moi, avec toute la musique. Et là, ce soir-là, j'ai dit pour la première fois que j'écrivais des chansons. Et ils m'ont dit, tu peux le faire, c'est bien.
Vous aviez créé une association d'organisation de spectacles uniquement pour faire venir leur groupe, les Stinky Toys.
Oui.
C'est fou, il n'y a eu qu'un seul concert en fait avec cette association.
Ah oui, on n'a pas pu après. Désastre financier.
Mais après, votre premier album, Étienne Dao, Mythomane, en 80, enregistré avec Jacquenot et les musiciens du groupe Marquis de Sade.
Oui.
Jacquenot qui vous a pointé un pistolet dessus.
Ah mais ça c'était après parce qu'il était jaloux.
Ah oui, bah, je comprends parce que quand on voit toutes les photos dans le livre, on se dit que vous êtes en couple avec Élie Medeiros. Enfin, en tout cas, moi je suis amoureuse d'elle à travers les photos, donc voilà, je projette. Mais dans...
Non mais c'était une passion, c'est sûr. Voilà, je peux pas dire le contraire.
On la retrouve sur votre album Eden.
Ouais.
Vous avez réalisé, produit des albums pour eux deux, vous avez chanté avec elle, aussi sur l'album Hommage Jacquenot Futur, la version française du titre des Stinky Toys, reprise par Lio en français, Amoureux Solitaire, et aussi avec leur fille, Calypso Valois. Oui. Je le dis, puisque après, quand on va parler d'autres musiciens, il y a toute la famille.
Oui, mais souvent, c'est-à-dire qu'en fait, je suis devenu très proche des enfants de mes amis.
Alors, il y a quelque chose qu'on apprend dans ce livre, c'est que Élie Medeiros lance quand même la mode de l'épingle à nourrice, repérée par Malcolm McLaren.
Oui.
Donc il lui prend l'épingle à nourrice, ça devient le symbole
jean,
punk.
Elle avait un jean complètement rapiécé avec plein d'épingles à nourrice. Et quand il est rentré à Londres, il a pris l'épingle à nourrice comme emblème du punk. Et d'ailleurs, il les a invités, parce qu'il avait flashé sur Élie, comme tout le monde. Elle était incroyablement belle, charismatique et singulière. Et donc il les a invités au 100 Club pour jouer avec les Pistols et Clash. Il y avait une affiche absolument incroyable, le premier festival punk au 100 Club à Londres.
Dans la chronique Frenchy But Chic de Rock and Folk, on écrit, Étienne Dao, que vous êtes l'enfant naturel de Nico et de Françoise Hardy,
ce qui
a dû vous faire plaisir.
Ah oui, c'est sûr, enfin, surtout que c'était, y avait très peu de magazines comme ça qu'on lisait, donc Rock and Folk, et surtout cette rubrique Frenchy But Chic était vraiment un genre de bible. À partir du moment où on était dedans, on existait, c'était vraiment un spot énorme. Donc vraiment, je crois que j'ai dû le découper et le garder dans un cahier pendant très longtemps.
1966, les garçons Françoise Hardy et Jacques Dutronc, dont la relation a débuté dans ces eaux-là. La voix de Françoise Hardy, Étienne Dao, vous l'entendez pour la première fois en Algérie. Mm-hmm. C'est la chanson Pourtant tu m'aimes et elle vous subjugue.
Oui, c'était le son. Je revois exactement l'endroit où j'étais quand j'ai entendu cette chanson à la radio. Donc avec toute la compression d'un petit poste de radio. Et ça m'a galvanisé. Bon, je connaissais un petit peu les chansons de Françoise Hardy avec le jukebox, mais quand je suis rentré en France, il y avait ces émissions qui s'appelaient Achetendre et Tête de Bois. Et donc, je la voyais régulièrement à la télé. J'étais complètement subjugué par sa beauté. Enfin, c'était carrément une martienne de cette période, en fait. Elle était tellement différente. Son look, ses chansons, sa mélancolie assumée. Enfin, et surtout, j'avais l'impression qu'elle s'adressait à moi. Que sa voix, que tout ce qu'elle disait était pour moi.
Vous êtes devenus amis, vous avez écrit pour Dutronc, chanté avec lui aussi, avec Françoise Hardy, dont vous avez même co-écrit la biographie avec Jérôme Soligny et elle-même. Vous êtes un fidèle en amitié, Étienne Dao.
Oui, et puis même les Dutronc, j'ai passé, je me souviens avoir passé un Noël avec eux, quoi. Il y a eu cette proximité avec Thomas, qui était tout petit, cette proximité presque familiale, quoi. C'est des gens que j'aime, vraiment, voilà.
Est-ce que vous...
Que j'aime artistiquement et que j'aime dans la vie, quoi. Enfin, j'aime les personnes qu'ils sont.
Vous devez admirer vos amis pour être amis avec eux ?
L'admiration est une chose très importante pour moi. J'ai besoin d'admirer, pour m'attacher, en fait.
Vous avez fait...
Et la désadmiration provoque l'inverse aussi, forcément. Je sais pas, voilà, je viens d'inventer un mot.
Oui. Vous avez fait un duo avec Jacques Dutronc, Tous les goûts sont dans ma nature.
Ah oui, c'était tellement drôle, c'était tellement
bien. Et le
clip
a été interdit.
Le clip a été interdit,
je l'ai vu,
ouais,
le clip.
Bizarrement.
Bizarrement,
je comprends
mais
pas,
il est affriolant.
Très honnêtement, il n'y a aucune raison pour interdire ce clip. Mais la chanson qui était écrite par Jacques, justement, c'était fantastique, justement, d'avoir autant d'humour et autant de recul. C'est une chanson qu'on devrait ressortir aujourd'hui, je trouve, dans une période qui est tellement hygiéniste et coincée.
Allez voir, Tous les goûts sont dans ma nature, c'est sur Internet.
J'ai toujours été seul et je n'ai jamais admis qu'on s'immisce dans mes pensées secrètes. Vous n'êtes plus seul aujourd'hui, non ? Dis bonjour. Je crois qu'il serait temps peut-être de présenter Jeanne Birkin. Vous connaissez Serge Gainsbourg depuis quand, Jeanne ?
Je pense 7 mois maintenant.
7 mois ?
Oui, 7-8 mois.
Ce n'est pas trop long ?
Non. Non.
Est-ce qu'il est important pour vous dans votre vie, Serge Gainsbourg ?
Oui.
Ça veut dire quoi, ce oui ?
Ça veut dire grande importance. Oui.
C'est une chose qui peut aller très loin ? Ou c'est une aventure passagère ?
Passagère, ça veut dire quoi ?
Qui ne dure pas longtemps.
J'espère que non.
C'est émouvant, Serge Gainsbourg.
Ah, c'est tellement sweet, quoi.
Ouais, et Jeanne Birkin dans Radioscopie de Jacques Chancel en 69. Ils viennent de tourner Slogan de Pierre ouais. Grimblat ensemble. Et c'est depuis 69 que vous connaissez Jeanne Birkin, pour laquelle vous avez aussi écrit et chanté, Etienne Dao.
Depuis 69 ? Non, je
vous l'écoutiez, en fait.
Oui, c'est ça. Non, je l'ai rencontrée, elle m'avait invité dans une émission pour les Carpentiers, un soir. Enfin, vous savez, ces émissions de variété. Et donc, on tournait dans les catacombes et dans les égouts. Et elle m'avait annoncé en disant un Dao très beau dans les égouts.
Oui.
Et voilà, on est devenus amis. Et puis le fait d'avoir fait ce disque là récemment, ça nous a beaucoup rapprochés aussi. Parce que c'est faire un disque, faire de la musique, c'est d'une telle intimité.
Au pardon ?
Oui, au pardon, tu dormais.
Vous avez aussi chanté avec Dany comme un boomerang, le morceau de
oui.
Gainsbourg.
Ouais.
Et dans le très beau livre que j'ai à côté de moi... On apprend qu'à un moment, il vous a convaincu de l'interviewer, mais que vous aviez quelques réticences.
Ah non, je voulais pas. Non, je voulais pas parce que autant j'avais beaucoup d'affection pour lui, autant je savais que dès qu'il y avait une caméra ou une tierce personne, il devenait assez différent et il pouvait vous mettre en difficulté. Et donc, j'avais pas du tout envie d'être en difficulté. Pas du tout. Mais je me suis laissé convaincre. Enfin, il a tellement, tellement insisté que j'ai dit OK. Ben je l'ai regretté. Hein.
Ah, vous l'avez regretté ?
Ah oui. Oui, parce qu'en fait, l'interview, enfin, j'ai essayé de poser des questions. J'ai préparé ça comme le bac. Et en fait, à l'image, vraiment, on sent que je suis décontenancé parce qu'il a une attitude qui m'a un peu glacé. Oui.
C'était pour la sortie d'un de ses albums ?
Oui, oui.
Gainsbourg, c'est aussi celui qui vous a offert un livre des tableaux de Francis Bacon.
Oui.
Pour lequel vous avez une passion, Etienne Dao.
Oui.
Vous en êtes inspiré pour le clip des heures hindoues.
Oui. Enfin, c'est le réalisateur qui s'était inspiré aussi.
Sébastien Chantrel.
Oui, qui a fait un clip magnifique. À l'époque, c'était assez révolutionnaire, tous ces effets.
En 2018, la fille de Serge Gainsbourg et Jeanne Birkin, Charlotte Gainsbourg, vous remet une victoire d'honneur pour l'ensemble de votre carrière aux Victoires de la Musique.
C'est tellement mignon. Tout ce qu'elle a dit était tellement... Parce que je me souviens d'elle, chez son père, elle était toute petite aussi. Tout ça, ce sont des... Voilà, ce sont des moments très précieux.
Et des familles d'adoption, j'ai l'impression.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Voici ce que vous avez imaginé avec elle, Charlotte Gainsbourg.
overréactif.
If exclusif et trop émotif.
If impulsif, qui est le fautif? If intrusif, plus combatif, sous sédatif, en soins intensifs, cherche le motif. Négatif, maladif, inexpressif et plus vraiment vif, cherche le motif. If trop captif et décoratif.
If défensif, à cran offensif.
If incisif, mes coups de canif.
If agressif,
qui est le fautif? If intrusif, plus combatif, sous sédatif, en soins intensifs, cherche le motif. If négatif, maladif, inexpressif et plus vraiment vif, cherche le motif.
Le morceau de 2003, If, d'Étienne Dao avec Charlotte Gainsbourg, dans l'embellie sur France Inter. Étienne Dao, je vous ai demandé ce qu'il fallait lire pour être armé dans l'existence.
Ma vitesse de croisière s'élevant sans vent à 280 km/h au régime que j'avais choisi. Je comptais sur une vitesse moyenne de plus de 300 km/h pour un parcours de 1000 km environ. Vers 1h du matin, je rencontrais des cumulus. Je ne voyais le sol qu'à travers les étroits couloirs qui les séparaient. Mais ce sol était obscur. Je décidai de me laisser glisser sous les nuages après avoir viré plein nord, de façon à recevoir dans ma fenêtre de gauche les feux des villes que je supposais avoir dépassées. C'est au cours de cette manœuvre, et déjà hors des nuages, que j'emboutis le sol.
1936, Antoine de Saint-Exupéry raconte son crash en Libye fin 35. Étienne Dao, vous avez choisi son culte Petit Prince, paru en 43 aux États-Unis, l'ouvrage de littérature française le plus lu et le plus connu dans le monde. Pourquoi ?
C'est un livre philosophique et dorlotant. Et c'est le premier disque que m'a offert ma mère aussi. Je l'ai gardé d'ailleurs. On devait le mettre dans le bouquin, mais je ne sais pas pourquoi la photo n'est pas passée. Il y a une petite étiquette, il y a marqué Étienne, cadeau de maman, Noël 1964. Et c'est un disque que j'ai usé jusqu'à la corde, vraiment, et que j'écoute encore de temps en temps, par Gérard Philippe.
Vous avez toujours eu envie, paraît-il, de faire un album pour enfants, avec justement ceux que vous écoutiez petits,
justement.
Comme Le Petit Prince.
Ouais.
Et vous avez composé la musique d'une adaptation du Vilain Petit Canard d'Andersen.
Absolument, oui. Ça a été
Arnaud
vraiment
c'était
cette envie. Avec Arnaud Valois, on avait envie de faire un classique, en toute modestie, et de faire un disque comme ça, qui soit dorlotant aussi pour les gens qui se sentent exclus et différents. Et quand on est petit, justement, la norme, c'est tellement important de ressembler à tout le monde, alors qu'en fait, ça n'existe pas. C'est un mythe.
C'est même ennuyeux, en fait.
Oui, oui, ça a aucun intérêt.
Une paillette d'or est un disque minuscule en métal doré percé d'un trou. Mince et légère, elle peut flotter sur l'eau. Il en reste quelquefois une ou deux accrochées dans les boucles d'un acrobate. Cet amour, mais presque désespéré, mais chargé de tendresse, que tu dois montrer à ton fil, il aura autant de force qu'en montre le fil de fer pour te porter.
Une lecture...
Jean Topard.
Bravo.
J'adore sa voix.
Bravo Étienne Dao, oui, du Funambule de Jean Genet par Jean Topard dans l'émission Bonne Nouvelle, grand comédien sur France Culture en 73. Étienne Dao, vous avez adapté, enregistré en musique son Condamné à mort avec Jeanne Moreau.
Et le Funambule qui n'est jamais sorti, c'est inédit. On a commencé à l'enregistrer avec Jeanne et en fait, il n'est jamais sorti.
Oh, je ne le savais pas. Donc j'imagine qu'il ne sortira pas.
Je ne sais pas. Après, c'est compliqué les droits avec Genet. Donc j'aimerais qu'on puisse le...
Mais il est terminé.
Oui, ce sont des lectures. Après, il faudrait vraiment y travailler parce que c'est un album un peu en friche. Hein. On a enregistré beaucoup de lectures et puis après, il faut sélectionner des choses. Mais ça a été un moment, c'était une rencontre avec Jeanne Moreau aussi, une très très grande intensité.
Oui, dans le livre, on voit ça, on voit quelques échanges.
Oui.
Oui, c'est très émouvant. Le Funambule, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu, c'est un long poème d'amour inspiré par le jeune acrobate Abdallah Bentayga, rencontré au milieu des années 50 et qui s'est suicidé en 64 à l'âge de 28 ans. Genet ne s'en remettra jamais.
Oui, c'est surtout aussi un livre qui est une collection de conseils quand on est un artiste. Il y a tout dedans. Mais vraiment, il y a tout, quoi.
La solitude et la souffrance.
Oui, et l'apparence. La représentation, l'isolement, qui est indispensable avant de donner. C'est vraiment en plus de la poésie extraordinairement belle et visuellement forte de Genet, il y a vraiment toutes ces choses qui vous poussent, qui vous soufflent dans le dos.
C'est un intérêt, Genet, que vous partagez avec un de vos héros, John Waters. Qui affirme que Genet lui a sauvé
John.
La vie.
Oui,
dont vous avez des petits mots affichés sur vos murs.
Oui, je reçois une carte de Noël à chaque fois, c'est la fête.
Et vous êtes intéressé, vous, Étienne Dao, à Genet, parce que Bowie l'admirait.
Oui, ben oui, on est des passeurs, en fait. Tous les artistes sont des passeurs. Et quand, chaque fois, j'entendais un artiste que j'admirais parler d'un artiste, j'essayais de découvrir qui était cet artiste. Et c'est vrai que Genet, à l'époque, était vraiment... connu d'un certain milieu, mais c'était pas un poète très très exposé ou connu, ou dont on nous parlait à l'école. Donc c'était encore 10 fois plus intéressant et excitant.
Étienne Dao, l'Académie française vous a décerné en décembre 2021 la grande médaille de la chanson française pour l'ensemble de votre œuvre. Et je pense à la littérature, il y a beaucoup de références de films dans votre œuvre,
oui.
Et aussi de livres, vous êtes un grand lecteur, j'imagine.
Je l'étais, je le suis beaucoup moins, mais toutes les chansons sont liées à la vie que j'absorbe, donc c'est un film, une photo, une rencontre, tout est... C'est pour ça que je suis très très observateur de tout, intéressé par tout, et après, voilà, ça passe par une espèce de filtre. Je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça marche, je sais pas comment ça fonctionne, mais ça devient des chansons.
C'est presque un processus alchimique que vous décrivez. Le Funambule de Genet aborde la solitude mortelle, la région désespérée et éclatante où opère l'artiste. Il en est aussi question dans L'être un jeune poète de Rilke, un de vos choix, Étienne Dao, pour l'émission.
Oui, ce sont des choix très classiques, en fait. Hein. Je pense que si on interroge la plupart des gens, ils vont citer ces livres comme étant des livres de chevet ou des livres qu'ils vont relire, qui sont des livres dans lesquels ils vont trouver un enseignement, un apaisement. J'échappe pas à cette règle, ce sont des bibles en fait.
Vous avez déjà eu peur d'entrer en vous-même, comme le suggère Rilke ? Parce que Rilke dit, personne ne pourra vous aider, vous êtes votre propre autorité, entrez en vous-même, n'ayez pas peur de frôler vos propres ténèbres pour créer.
Ah mais on est obligé. Je veux dire, moi j'y ai été contraint quand on parlait du Château Marmont tout à l'heure. Ça a été un moment où j'ai dû entrer en moi-même, comme vous dites. Et c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver.
Nous avons
puisque ça m'a permis d'avoir un futur.
Justement, en parlant de futur, Étienne Daou, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie. Vous avez répondu « continuer à accomplir ce que je fais depuis 40 ans déjà et de le faire de mieux en mieux en ayant de plus en plus de plaisir à le faire ». C'est la direction que vous prenez, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, de plus en plus de plaisir.
Oui, oui, oui. J'ai toujours eu un plaisir fou à faire de la musique, à être en studio, à aller sur scène. Hein, mais je pense que plus on est conscient de ça, en fait, plus... Il y a quelque chose d'assez exceptionnel, en fait, dans le fait d'avoir une connexion comme ça avec les autres, grâce à ces chansons. Et que certaines personnes se reconnaissent dans ces chansons, et que ça en fait une connexion universelle, en fait. Ça m'épate toujours dans les concerts, quand les gens chantent des chansons, quand les gens me parlent d'une certaine chanson, en me disant « cette chanson a changé ma trajectoire ». Je pense à une chanson, par exemple, ça revient assez souvent, « Le premier jour du reste de ta vie », on me dit très régulièrement, grâce à cette chanson, les choses ont été modifiées. Cette chanson a modifié des choses dans mon existence. Ça, c'est fou. Ça, c'est incroyable. C'est la plus belle chose qui puisse m'arriver.
Vous étiez dans quel état d'esprit quand vous l'avez justement écrite, cette chanson ?
C'était à peu près à ce moment-là. C'était la sortie, justement, de cette période très, très, très tumultueuse. Et voilà, tout est dit dans cette chanson, quoi.
Oui,
donc, c'était le début, en fait, le redébut. Mais tout est un commencement perpétuel, de toute façon.
Je vous ai demandé ce que vous aviez raté et vous avez répondu « Je n'ai pas l'impression d'avoir raté des choses essentielles. Peut-être suis-je passé à côté de certaines personnes par manque de temps et de passion accordée à mon métier.
» C'est vrai.
Mais si tout est plaisir, vous n'avez rien raté, finalement.
Non, mais je dis raté parce que c'était la question. Et c'est très prétentieux de dire d'ailleurs qu'on n'a rien raté, parce que peut-être que j'ai raté des choses, mais je ne le sais pas.
C'est la meilleure posture. Voici, je vous ai demandé quelque chose de beau à recommander aux auditeurs, c'est ce groupe. Vous avez tout de suite reconnu cette reprise des Kinks, Étienne Daou,
oui.
Le titre Strange Effect du groupe américano-irlandais Unloved, que vous affectionnez, avec lequel vous avez collaboré puisque vous apparaissez sur leur Pink album.
Oui,
et ils ont produit des chansons pour vous sur Blitz.
Oui, voilà. Et puis, sur le prochain album, il y a 3 titres avec eux aussi.
D'accord.
Dont un duo avec Jade encore. Voilà. C'est un peu des gris-gris maintenant.
Vous trouvez leur musique très cinématographique et lyrique, et je crois que vous avez une anecdote au sujet de Saint-Malo avec eux.
Ah oui, 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 parce qu'ils étaient venus me voir à Saint-Malo pendant Noël, il y a, je sais pas, peut-être 5 ans. Et du coup, ils ont quitté Los Angeles, ils sont installés à Saint-Malo, ils y sont depuis.
Quand ils vont voir maintenant qu'il y a des cabas et des marinières imaginées par vous, ils ne quitteront plus jamais la Bretagne. On arrive à l'engagement de fin d'émission, Étienne Daou. Je vous ai demandé un engagement dans n'importe quel champ et vous avez dit moins parler de moi-même et prendre davantage le temps de vivre. Alors j'ai retardé cet engagement, j'espère que ça ne vous a pas gêné.
Non, mais parce que c'est vrai que ça fabrique un côté très égocentrique en fait, quand on est exposé comme ça, qu'on parle de soi, là il y a un bouquin. Enfin, parler de soi, c'est quelque chose, peut-être que c'est assez masculin d'être taiseux, enfin, c'est-à-dire de pas trop...
Ah bon ?
Parler de soi, oui quand même.
Moi je vous trouve très réservé par rapport à la majorité des gens très exposés.
Ah c'est vrai ?
Ah oui.
Ah ok, d'accord.
C'est plutôt noble.
Je ne me rends pas compte.
Oui.
Oui, oui, moi parler de soi forcément, mais c'est mal barré quand même.
Là je crois que vous allez faire délibérément très peu de médias.
Oui, oui, il y a très peu de choses parce que d'abord je suis en train de finir un disque qui prend beaucoup de temps en fait. Là je suis... au stade du mix, d'ailleurs je suis parti du mix et j'y retourne, pour faire l'émission. Et c'est un moment qui est un moment tellement délicat, parce qu'en fait, c'est que des renoncements. Parce qu'en fait, il y a plein de choses. Et donc voilà, puis ça fait tellement longtemps que je travaille sur ce disque que vraiment j'ai envie qu'il soit le mieux possible, que le paquebot arrive à bon port. Et parfois, il y est presque, mais il n'y est pas complètement, et ça en fout. Ça en fout, c'est très frustrant. Alors quand tout d'un coup, on arrive à une chanson, on se dit, voilà, ça y est, on le sait, quoi, elle est parfaite. C'est vraiment un moment extatique.
On les attend alors. Merci beaucoup, Étienne Daoud. Bah,
merci à vous pour cette récréation pour moi.
Bah oui, et pour nous aussi, merci d'être venu dans l'émission. Étienne Daoud, A Secret Book de Sylvie Coma est paru le 28 octobre dernier aux éditions de La Martinière. La préface est signée Élie Médéros. Votre prochain album s'intitulera Tirer la nuit sur les étoiles et sortira normalement au printemps 2023 sur le label Barclay. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux.